Bon. Bonjour toutes et tous. Ce matin, on va faire une petite étude du parabole des vignerons dans Luc chapitre 20, versets 9 à 19. Mais cette parabole, c'est une parabole de le royaume de Dieu. Du royaume. Et la location, c'est le temple à Jérusalem. Et l'évangile de Luc, c'est un évangile qui, on peut voir le mouvement dans l'évangile. Donc, il y a le mouvement, bon, de Bethléem à Galilée, Galilée, jusque Jérusalem. Donc, on peut voir que Jésus est en train de bouger. Bon, toujours, le but de Jésus dans l'évangile, c'est d'arriver à Jérusalem. Ça, c'est la fin. Mais il y a aussi le mouvement dans le plan spirituel. Parce qu'il y a la naissance, la proclamation du roi qui est venu, les appels des disciples, les miracles, la confrontation avec les démons et tout ça. Bon, mais tout ça, c'est dans le même chemin pour aller à Jérusalem. Là où il y a aussi le mouvement spirituel. Dieu est en train de faire quelque chose de nouvel sur la terre, de nouveau. Donc, il y a un mouvement. Et dans le temps de Jésus, bon, ce parabole, c'est juste avant qu'il arrive. Non, non, c'est pas ça. C'est le moment qu'il arrive à Jérusalem. Et ça commence, bon, avec Jésus, bon, le chemin. Il y a le chemin que Jésus a suivi depuis Galilée. Il est arrivé dans une certaine ville. Il doit monter les montagnes. Et quand il est arrivé des monts de Olivier, au sommet, le col là, il peut voir Jérusalem. Et c'est le moment des pèlerins qui arrivent à Jérusalem. Et c'est le moment de Pâques, ou Pacha pour les Juifs. C'est le moment de leur sacrifice. C'est le moment qui tout le monde est encouragé, bon, tous les Juifs sont encouragés d'aller à Jérusalem. Moi, il n'a pas eu les EasyJet. Donc, il faut marcher, prendre le bateau, prendre l'âne ou un autre moyen pour arriver, marcher jusqu'à Jérusalem. Donc, ils sont là et souvent, je ne veux pas dire les troupeaux, mais les foules, ça arrive ensemble. Ce n'est pas les gens qui arrivent un par un, mais souvent dans les groupes, ils arrivent. Et souvent, ils sont en train de chanter. Et normalement, il va chanter, Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et donc, nous avons, je crois, le même chant. Béni soit celui qui vient dans le nom de l'Éternel. Mais les disciples, ils ont changé un petit peu. Je crois que c'est Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Parce que dans les anciens temps, c'est le roi aussi qui était là pour descendre dans la vallée pour monter encore à Jérusalem. Et il veut chanter. Mais les disciples, ils sont sûrs que Jésus, c'est le roi déjà. Ils ont commencé à chanter, Béni soit le roi. Et est-ce que, je crois que les gens qui ont vu le miracle, qu'ils ont entendu toutes les choses que Jésus a fait, ils sont contents. Il peut chanter, Béni soit le roi. Peut-être c'est lui qui va frapper les Romains, chasser les Romains du pays et mettre Jérusalem dans la première place dans le monde encore. comme quelques prophètes dans l'Ancien Testament ont dit, que Dieu va régner à Jérusalem. Peut-être c'est ses pensées. Ah, bon, les Romains, je crois qu'ils ont... C'est pas grand-chose. Quelqu'un qui vient, qui chante, c'est pas... Ça passe chaque année qu'ils sont venus comme ça. Donc, il n'a pas pensé grand-chose de ça. Mais les prêtres qui sont là à Jérusalem, ils ont eu peur. Pourquoi il est en... Qu'est-ce qu'il veut faire? La rébellion contre Rome, nous ne sommes pas prêts. Ils ont peur dans leur cœur. Parce qu'ils ont vu qu'il y a confrontation avec des pouvoirs du temps. Ils ont eu peur que Jésus va déstabiliser leur relation avec les Romains. Et ensuite, Jésus, quand il est monté à Jérusalem, il est entré dans le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas entré pour prier. Il est entré. Il a dit que mon temple sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il a renversé les tables d'échange d'argent, de la monnaie. Parce que les gens, ils doivent payer quelques impôts et choses dans le temple, dans la pièce de la monnaie. Mais ils ont eu les gens là sur la table. Et bon, je ne sais pas si vous avez changé de l'argent dans l'aéroport. Est-ce qu'il doit avoir un petit bénéfice, n'est-ce pas? Ce n'est pas les 1-1-1 ou quelque chose. Bon, aujourd'hui, donc, aujourd'hui, je crois que c'est 1 euro, ça vaut 1,22 $. Mais si tu passes à la... Aéroport, peut-être il va dire que en euro c'est 145 ou quelque chose comme ça, 150. Et ça, c'est comme ça ils ont fait dans le temple. Tu dois payer dans la pièce de monnaie ici, donc il faut changer. Ce n'est pas dans le prix normal, mais ils ont changé avec un petit bénéfice. Donc il y a comme un pour le temple, un pour moi, un pour le temple, un pour moi. Donc, ils ont dit, ça c'est les voleurs. Il y a les autres choses qu'ils sont en train de passer, parce que c'est le Pascha, Pâques. Les gens emmènent les agneaux pour le sacrifice. Mais avant qu'ils puissent sacrifier, ça, le prêtre va regarder, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est pur? C'est clair. Il va regarder. Des fois, il dit non, c'est pas. C'est passé dans le temps de Jésus que les gens ils sont en train de rentrer et le prêtre a dit c'est pas bon. Donc ils ont pris ça pour aller là-bas. Ils ont pris un autre. Les gens ils doivent payer le sacrifice. Ils prennent maintenant ils peuvent sacrifier. Et le sacrifice va être ça. La prochaine personne, ou bon, après quelques personnes, il va arriver avec eux, il dit, non, c'est pas ça. Il fait sortir ça, le sacrifice là-bas, l'agneau, il prend le premier qui est là, il dit non, dit, bon, maintenant ça c'est bon, allez, payez. Commerce. Les commerces de voleurs dans le temple. Et Jésus n'était pas content, il a pris les tables, ils ont fait renverser les tables, je crois que ça passe dans quelques minutes, mais qu'est-ce qu'il a fait? Les prêtres ne sont pas contents. Donc, il y a une confrontation. Ils ont demandé, pourquoi tu as fait ça? Mais par quelle autorité aussi tu as fait ça? Et par conséquence, Jésus a donné la parabole devineront. Je ne sais pas qui a le bon voix pour lire. Oui.
Et se mit ensuite à dire cette parabole au peuple. Un homme planta une vigne, la loua des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors, que faire ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être en le voyant auront-ils du respect pour lui. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voilà l'héritier. Tuons-le afin que l'héritage soit à nous. Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne ?
Ça continue, mais si ça s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce que le maître de la vigne va faire aujourd'hui? Quelqu'un peut vous répondre s'il veut, mais est-ce qu'il va rester content? Ah oui! Qu'est-ce qu'il va faire?
Détruire la vigne.
Ok, mais
se venger peut-être.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Oui.
Il va les attaquer en justice et mettre en prison.
Ok. 5 ans plus tard. Oui, mais j'ai oublié le numéro, mais je peux regarder sur mon portable. Il peut faire. C'est pas le 15, mais c'est.
Soit. Engager un tueur pour tout.
Oui. Mais aujourd'hui. Même, nous avons les process légaux, on va suivre. Et celui-là aussi, il va le suivre. Ok.
Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent, certainement pas. Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit, que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même, mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole.
Oui, donc Jésus a donné la parabole. Contre les prêtres et les spécialistes de la loi. Et donc, dans un sens, ils sont piégés. Bon, mais je crois qu'au même moment, les prêtres et les spécialistes de la loi, ils sont en train de demander qui est Jésus? Qui est lui? Pour qu'il puisse faire ça? Pourquoi il a renversé les tables? Pourquoi il a donné les paraboles comme ça? Pourquoi il part contre nous? Nous, les gardiens de le temple. Pourquoi il part comme ça? Nous sommes les, selon eux, les fidèles. Nous sommes dans le centre de la religion juive. Nous sommes les hommes forts. Nous sommes là pour Dieu. Pourquoi Jésus il dit les choses comme ça? Parce que je crois qu'ils ont compris tout de suite que c'est contre eux parce que Ésaïe, chapitre 5, commence avec Dieu a planté les vignobles. Dieu a planté les vignes dans Israël. Et il a travaillé, il a donné toutes les choses nécessaires, mais quand les récoltes sont venues, ce n'était pas les bons fruits, mais c'est quelque chose d'amer. Il a dit sauvage. On ne peut pas faire les choses avec ça. Et je crois que les prêtres, ils vont comprendre tout de suite que quand ils parlent d'un homme qui a planté les vignes, ça c'est Dieu. Et les gens qu'ils ont envoyés, les serviteurs, c'est les prophètes. Les prophètes qui sont venus pour donner les avertissements, l'enseignement, pour éclaircir la parole de Dieu, ils sont là. Mais ils sont aussi pour demander que les gens fassent leur repentance, fassent leur retour à Dieu. Mais ils ont refusé. Donc, Dieu a envoyé les prophètes. Les prophètes sont venus, ils sont fidèles, ils ont demandé, ils ont dit exactement ce que Dieu a demandé. Allez prendre ma part de la récolte. Le premier, m'envoyer, m'invite. Le deuxième aussi. Le troisième, c'est blessé. C'est de pire en pire. Et donc, il a donné la possibilité. Il a donné la possibilité à ce temps-là pour leur repentance. Ils ont eu la chance de faire les choses correctement, de donner ce qu'il a demandé. Mais ils ont refusé. Et Dieu a dit, j'irai envoyer mon fils. Je crois que ça, c'est quelque chose que les prêtres et les spécialistes de la loi, ils n'ont pas compris. Comment? Ce n'est pas partie de l'histoire avant. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Que l'homme qui a planté la vigne a envoyé son fils. Qui est son fils et pourquoi? Mais quand les gens, les travailleurs, ils ont vu, ah, ça c'est le fils. Il va hériter toutes les choses. Si on tue le fils, on peut prendre le vignoble pour nous-mêmes. C'est à nous maintenant. Hein? Donc, ils ont pris la décision de tuer le fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le fils dehors. Et puis, ils ont tué, frappé. Pourquoi? S'ils ont tué le fils dans le terrain des vignes, ça bloque la pureté du vin, du vigne. Donc, ils ont concentré sur les lois de la pureté. Mais ce n'est pas la loi qui dit ne tue pas les autres. C'est bizarre. Il va garder ça parce que ça, c'est pur. Mais on peut jeter le fils dehors et le tuer parce que ça, c'est autre chose. C'est intéressant. Mais qu'est-ce que... Je crois qu'ils ont eu les problèmes avec ces versets, avec les fils. Qui est le fils de Dieu? Qui est lui? Et donc, Jésus a suivi ça avec... qu'est-ce que le Père va faire? Ils vont envoyer les responsables. De ce temps, c'est les soldats romains qui peuvent venir chasser les gens. Non, ce n'est pas pour chasser. Il va les tuer. C'est tout. Ça, c'est le romain. Ça, c'est la justice romaine. S'ils ont... Oui, ça, c'est... Bon, oui, OK. Ils ont présenté le cas. Il va venir avec force. C'est fini. Il ne peut pas avoir les choses comme ça qui passent. C'est le mot du jugement. Et vraiment, Dieu a jugé les gens. Donc, il a planté les vignes. Les gens, il a envoyé les gens, il a envoyé son fils. Il a envoyé, et dans le mot, le fils bien-aimé, son fils unique. Ce n'était pas une obligation d'envoyer son fils. Ce n'était pas quelque chose qui était nécessaire. Non, 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 non. C'est après le premier serviteur qu'il a eu le droit de poursuivre la justice. Ce n'était pas nécessaire d'envoyer le 12e, ni le 3e. Ce n'était pas nécessaire d'envoyer son fils. Il a eu le droit de poursuivre la justice avec ces gens après le premier. Après le premier refusal de donner la part de la vigne, je ne sais pas si c'est des raisins ou du vin ou quoi, ils ont demandé, mais quand même, il a eu le droit de poursuivre la justice même après le premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'homme qui a planté la vigne, Dieu, est-ce qu'il veut le jugement? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il a demandé 3 fois? Pourquoi il a envoyé son fils? Pour la justice ou pour la grâce? Pour donner le temps pour les gens de repentir des choses. Je crois qu'il a donné le temps. Mais les gens, les prêtres et les spécialistes dans la loi, qui est le fils? Pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi? Et Jésus, il a continué. Et c'est aussi dans le psaume 118, le verset qui dit, je crois que c'est... Non. Peut-être... Ah, pardon. OK. Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qui ont rejeté, ce qui construit, est devenue la pierre angulaire. Ça, c'est aussi dans le psaume 118. Et pour moi, ça, il me semble que ça, c'est mal placé. Je me dis qu'il y a les autres qui disent, non, c'est lui qui était en train de faire les choses. Il a eu quelques... quelques mots qui dit bon, je peux mettre ça ici. Non. Si on regarde Matthieu et Marc, ils ont la même idée. Et ça existe aussi dans les églises de premier temps, premier siècle. L'idée que les pierres qui étaient rejetées est devenue le centre. Il y a un petit jeu de mots, parce que dans l'hébreu, et je crois qu'au premier temps, c'était dans le araméen, qui était un dialecte hébreu, ils ont utilisé le fils, c'est Ben. Bon, ça continue aujourd'hui. Ben David, Ben Gideon, Ben des autres, c'est le fils. Mais la pierre, Eben. Ça, c'est la pierre. Donc, il y a un petit jeu de mots. Le fils qui était jeté dehors et l'Eben, la pierre qui était rejetée, est devenue la pierre angulaire. Donc le fils qui était jeté dehors aussi est devenu les choses centres, au centre de la culte. Parce qu'il est le fils de Dieu. C'est vrai que le jugement est tombé sur le temple, et sur le prêtre et tous les gens. Mais c'est aussi duré un peu de temps. c'était en 70 que les Romains, après une petite rébellion des Juifs, les Romains sont entrés en Jérusalem et ils ont détruit le temple. Tout à fait. Ils ont brûlé toutes les choses. Et c'était quelque chose vraiment magnifique dans le monde. Ils ont dit qu'ils ont eu sur la porte d'entrée, ils ont eu les plaques d'or. Je ne sais pas combien, mais des fois, ils ont mis les plaques d'or là pour la réflexion, toute la lumière et tout ça pour sur la porte d'entrée. Ils ont aussi sur le pilier et tout ça, les boutons, les vignes avec les raisins qui sont là dans le temple. Donc ils sont là pour monter le pilier et jusqu'au milieu, donc les vignes et les raisins sont là. Mais les Romains sont venus, ils ont écrasé tout le terrain. Ils ont jugé tous les gens à cause de leur rébellion. Mais la pierre qui était rejetée, c'est Jésus. Et il est devenu la pierre vivante de le temple vivant. Et nous sommes le temple vivant de Dieu. Nous sommes la construction. Et donc, les gens dans le temple, ils doivent entrer par la porte pour entrer dans le temple. Et les prêtres et tous les gens, ils ont eu le système de contrôle pour tout ça. Maintenant, ça, c'est tout à fait détruit. Mais Jésus, c'est notre porte d'entrée. C'est pas dans le temple sur la terre, mais le temple de Dieu. Jésus, c'est notre porte d'entrée par la grâce. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes en lui. Nous sommes les fils de Dieu par la foi. Et Dieu nous demande de marcher avec lui. Comme les disciples. Au Pierre, il a su que Jésus était autre que que les prêtres, ils ont pensé que c'est quelqu'un, bon, je ne sais pas, même qu'ils ont pensé que Jésus est un prophète, mais il enseigne les gens. Mais Jésus a dit, Pierre a dit que tu es le Messie, le Sauveur. Et Jésus a répondu que Jésus ajouta, parce que Pierre a dit qu'il est le Messie, le Sauveur, qu'il fallait que le Fils d'homme, de l'homme, souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc nous avons passé par Pâques. Nous avons célébré la résurrection. Et au lieu d'avoir un système de sacrifice pour entrer dans le royaume de Dieu, nous avons Jésus-Christ qui se sacrifie lui-même pour nous. Pas pour avoir un temple fait de pierre et autre chose, mais le temple vivant. Et Dieu nous appelle d'être le temple vivant de Dieu. Et nous marchons ensemble dans la foi. Ce n'est pas un par un, mais nous sommes ensemble. Et ça s'appelle l'Église. Que nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Et nous marchons ensemble par la foi. Et nous entrons ensemble dans le royaume de Dieu par la foi. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et ça, c'est notre besoin aujourd'hui, et de continuer de marcher par la grâce. Ce n'est pas le système de sacrifice, parce que Jésus est déjà notre sacrifice. Mais c'est pour suivre Jésus, de marcher ensemble, d'aller vers le droit que Dieu nous appelle. Ce n'est pas seulement ici sur la terre, mais il nous appelle pour le ciel, pour le royaume de Dieu, et que le royaume soit fait. Et donc, quand nous marchons ensemble, comme le temple vivant de Dieu, nous pouvons chanter ensemble, « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit l'Église de Jésus-Christ. » Merci. Et Dieu vous bénisse.